ça parle des pratiques anciennes et des pratiques nouvelles. Et juste après, un magnifique jingle que nous avons essayé de faire tranquillement il y a peu de temps avec nos amis de cette émission, Daskritch, qui nous a rejoint là tout à l'heure, qui a posé quelques questions très affinées sur la bande dessinée.
Désolé, hein, chroniqueur BD,
forcément, voilà, et tu as été souvent à Angoulême,
voilà. Et membre de la du prix de la critique.
Absolument. Donc, la chronique de Daskritch dans quelques secondes.
C'est le Cotin Télo, Daskritch est au micro, parlant d'informatique et d'autres trucs antiques.
Il pique.
Il cause son boulot, monte sur ses grands chevaux.
Bonjour.
C'est le Cotin Télo.
Je t'ai dit couper.
Et voilà.
Ah non, bah voilà, voilà,
c'est le gène. Il est stagiaire en ce moment.
Et il aurait dû se couper tout seul. Pourquoi on avait bouclé?
Il ne bouclait pas.
On recommence. Allez, on refait l'intro.
Ah, d'accord.
Allez, on refait l'intro.
Non, c'est bon. Là,
mais parce qu'il y en a plusieurs.
Ah, putain, ouais.
Ah, punaise. Il va falloir recouper tout ça au montage.
Mais on a un direct, c'est trop tard.
Allez, vas-y, Daskritch.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes, sauf si le nom de domaine de la radio a été suspendu par le ministère de l'Intérieur à notre insu. Suite à l'attentat contre Charlie Hebdo et profitant d'une émotion mondiale légitime, le gouvernement de François Hollande a fait passer une demande au niveau européen de censure d'Internet et qui se passerait de l'arbitrage des juges. Oui, la fameuse censure qui eut raison de Harakiri Hebdo pour une couverture sans dessin, donnant naissance en 1970 à Charlie Hebdo et qui a continuellement menacé sa publication pendant ses deux vies passées. Oui, une demande au niveau européen puisque ce dispositif est une atteinte directe à la liberté d'expression. La France ne peut passer une telle loi sans l'accord de Bruxelles. L'occasion est trop belle, car ce décret était prêt depuis un bail et n'attendait qu'un moment opportun pour être passé en catimini. Voilà, ça va pas se voir et hop, zou, je vous l'envoie dans la gueule. Les ciseaux numériques d'Anastasie cibleraient tout site terroriste, pédopornographique, de contrefaçon artistique ou industrielle, d'informations sur le suicide ou sur la drogue et autres activités probablement illégales ou supposées l'être dans ce fourre-tout à la définition plutôt vague. Bon, personnellement, moi j'aurais dit un inventaire à la Prévert, mais tenu par les tortionnaires de Franz Kafka. Le dispositif est relativement simple. Si on accède à certains noms de domaines, l'utilisateur sera renvoyé vers une page hébergée et maintenue par le ministère de l'Intérieur, expliquant que le dit site est bloqué. Et tant qu'on y est, puisqu'on y a renvoyé l'internaute, on l'a automatiquement fiché, forcément. Un problème technique tient au cœur du dispositif. Ce sont les noms de domaines qui sont ciblés. Techniquement, cela marche relativement bien tant qu'on y accède sans avoir touché à ces réglages DNS. Bon alors, un DNS, Domain Name System, transforme le nom d'un site, par exemple mon blog, daskritch.net, où il y a tous les liens de ma chronique, c'est mis en simulcast si vous n'arrivez pas à cliquer sur votre radio, en un numéro d'adresse qui permette de le joindre. 178, 33, 141, 37, enfin tant qu'il n'est pas bloqué pour apologie de pédoterrorisme contrefait. Il peut aussi être mis en place par un dispositif de type proxy pour interdire certains noms de domaines, solution employée dans de nombreuses entreprises d'administration, où il est généralement, scientifiquement et affectueusement appelé le proxy à la con, c'est en dire la fiabilité. Mais si jamais j'utilise un autre DNS que celui fourni par mon fournisseur d'accès, ou que j'utilise par exemple un VPN qui m'aurait permis de regarder en streaming des émissions d'un autre pays, ou encore que le dit site soit en mode HTTPS, qu'en n'importe quel site bancaire ou d'e-commerce, j'aurais aisément contourné la censure du ministère. Et la manipulation est si triviale qu'elle en montre à la fois sa totale inefficacité et sa dangerosité pour la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, les sites suspendus seront reproduits, encore reproduits, de plus en plus vite, et se distribueront par CD-ROM, par clé USB, en impression papier, sans strictement aucun moyen de contrôle. C'est déjà le cas pour les prêches extrémistes, et de bien piètre mesure aussi dérisoire qu'un cache-sexe sur un dessin de charbon. On imagine très bien ce qu'il y a derrière, on peut même, sans même voir, imaginer ce qu'il y a tellement que c'est facile à contourner. Autre souci, c'est que ces sites pourront être suspendus sans aucun moyen d'information ou de recours, alors que seules certaines pages litigieuses pourraient poser problème. Alors du côté des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, la situation est très difficile. Étant par nature à échelle mondiale, ils doivent ménager la chèvre et le chou. Comment autoriser la censure et dans quel cas? Comment expliquer qu'un pays n'a pas le droit de censurer au niveau mondial, qu'elle est moins démocratique qu'un autre? Ainsi, Twitter ne suspend un compte que sur signalement. Google déréférence des sites sur demande juridique, des demandes principalement liées à des revendications de droits d'auteur, mais Google publie toutes ces demandes sur un site chillingfx.org. Je traduis, ça veut dire que c'est des effets assez glaçants, donc ça explique bien quel est le problème. Facebook a une politique plus proactive, censurant de sa propre initiative le moindre nu féminin. Alors, il se trouve que cette position ambiguë, Mark Zuckerberg se l'est prise dans la tronche, pas plus tard que cette semaine, dans son message de soutien à Charlie Hebdo. Il raconte que maintes fois, il s'est pris des menaces pour laisser passer des caricatures de Mahomet sur son réseau social. Premier commentaire juste en dessous, le célèbre tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, maintes fois censuré sur son réseau social. Dommage, camarade. Apple refuse des applications sur le principe de leur contenu. Il bloque même certaines recherches à partir d'un Macintosh. Voilà pourquoi, malgré de nombreuses tentatives, Charlie Hebdo n'a jamais pu avoir son application rendue disponible sur iPhone. Pourtant, Apple a affiché fort hypocritement un « Je suis Charlie » de fort mauvaise aloi sur ses sites. Oui, Apple et Facebook se montrent de zélés censeurs appliquant au monde entier une morale américaine non dite, mais religieusement prude. Twitter, Google, Microsoft se montrent plus permissifs, proposant un mode « Ouais, ben, vous êtes adulte, tant pis pour vous si ça choque. Hein. » Mais bon, il faut changer un paramètre. Encore un cache-sexe. Combien de temps nous laisseront-ils exposer les fameux tétons de nibards féminins qui font tant hurler l'Amérique ? Oui, je précise féminin. Parce que les tétons masculins ne les gênent pas. Peut-être parce que vestigiaux. Vous irez chercher dans le dictionnaire, il y a le lien. Il suffit de voir les affiches de Rambo, film prônant une violence gratuite et exacerbée, mais moralement tellement plus acceptable qu'un torse nu. Seulement, comme la censure ne suffit pas, le même décret prévoit de renforcer la surveillance globale automatisée de la population française. Alors je me demande, très sincèrement, à quoi peut servir la surveillance globale sinon à intimider ? Puisque les personnes qui ont commis ces actes ignobles de terreur étaient parfaitement connues des services de police. Ils étaient même fichés comme dangereux par les renseignements généraux et interdits de voyage en avion vers certains pays. Comme Mehdi Nemouche en 2012, comme Mohamed Merah en 2011, comme plein d'autres meurtriers avant leur passage à l'acte. En quoi la surveillance globale aurait-elle pu aider ? Sinon qu'à confirmer ce que les services de police savaient déjà. Son utilité s'y montre dérisoire, à se demander à quoi servent les hommes du président, les plombiers du canard enchaîné et les services de renseignements généraux. Par contre, elle va considérablement augmenter le nombre d'individus suspects et surtout le nombre de faux positifs. Une situation qui n'est pas digne d'une démocratie mais d'un état policier pervers. S'il n'y a pas assez de coupables potentiels, autant décréter 66 millions de coupables. Alors notre Premier ministre propose des lois spéciales interdisant l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Loi complètement inutile, puisque ce délit est déjà réprimé, que cela soit sur Internet ou en public, peu importe, est passible de 7 ans de prison. Il y a même un là qui va inaugurer ça avec 1 an et demi d'ailleurs. C'est une décision cet après-midi pour une phrase lâchée sur Facebook. Une fois de plus, depuis 15 ans, c'est Internet le fautisme. Fantasmatique source de tous les maux. Innocentant donc le chômage de masse, avec 50% de jeunes de moins de 25 ans dans les banlieues abandonnées. L'éducation nationale en ruine, l'intégration loupée des populations étrangères, l'encadrement rouillé dans les prisons. Et justement, c'est en prison que les assassins sont radicalisés. Pas devant Instagram ou marmiton.com, mais en lisant une œuvre de fiction religieuse en papier. Notre gouvernement va donc taper totalement à côté de la plaque, croyant résorber en attaque les symptômes, mais laissant s'aggraver les vrais maux. Le porteur de mauvaises nouvelles sera donc fusillé au lieu de faire en sorte que nos problèmes soient résolus. Alors dois-je donc rappeler l'éditorial que j'ai écrit qui a ouvert l'émission de mercredi dernier, moins de 7 heures après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Le terrorisme veut détruire la société démocratique en imposant une autocensure, des lois d'exception, un régime de terreur. Malheureusement, je ne peux que constater que le pouvoir exécutif de notre pays a joué le jeu. Quitte à avoir invité une cinquantaine de dirigeants étrangers dimanche dernier, j'aurais aimé que M. le Président de la République rappelle au roi Abdullah de Jordanie qu'il a condamné un journaliste palestinien à 15 ans de travaux forcés, au Premier ministre turc Davutoglu qu'il emprisonne plus de journalistes que tout autre pays au monde, au Premier ministre israélien Netanyahou qu'il a fait tuer 7 journalistes en 2014, au ministère des Affaires étrangères égyptien Choukri qu'il emprisonne depuis 500 jours un photographe, au ministère des Affaires étrangères russe Lavrov qu'il emprisonne un journaliste pour insulte envers un haut fonctionnaire, à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite que son pays vient de condamner le blogueur Raif Badawi à 1000 coups de fouet pour blasphème, et à tant d'autres que leur répression violente envers les journalistes et les blogueurs, et que donc leur présence à cette manifestation devrait s'accompagner de vraies lois garantissant la liberté d'expression. La symbolique aurait été gigantesque, mais non. L'occasion est lamentablement perdue, et comme dit Mediapart, ce fut le bal des affreux présent pour se refaire une virginité. À cette vitesse, certains hommes politiques ne devraient pas s'inquiéter que la France devienne islamiste, mais qu'Internet y devienne aussi filtré qu'en Chine. Enfant du futur immédiat, il est quand même infiniment triste que le pouvoir exécutif profite d'un drame qui touche à la liberté d'expression, d'information et de blasphème, pour la blesser d'autant plus. Sans la liberté de blâmer n'est point d'éloge flatteur, dit Figaro dans... Mariage de Figaro, bien sûr, oui, j'en vois qu'il y en a qui suivent. et la suite de pièces de Beaumarchais annoncèrent les prémices de la Révolution française. Je tiens à signaler aussi que jeudi de la semaine prochaine aura lieu la crypto-partie sur le thème de l'identité numérique. Ce sera à la médiathèque municipale à partir de 18h, suivi d'un apéro à 20h avec les sympathisants à la Quadrature du Net. C'est à la maison du vélo sentimental.
Oui, et tout à l'heure, tu as raison, Daskritch, je ne voulais pas dire impilation de droits, mais de lois. Hein,
oui, parce que justement, tu supprimes des droits.
On supprime
c'est
des droits.
C'est un problème de sécurité informatique, tu supprimes des droits en rajoutant des lois.
Et comme on le dit, dans l'émotion, on rajoute toujours des choses. Facile d'accès pour les certaines idées.
Ouais, ça me rappelle un certain hyper-président de 1m60, 50
de voilà,